Anna Messner, coordinatrice de l'AMAP Valrose, est avec nous. AMAP, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Alors Anna Messner, vous défendez cette agriculture paysanne par rapport à quoi? Par rapport à une agriculture intensive, par exemple?
Voilà, c'est ça, oui.
Extensive aussi, qui est aussi, aussi mauvais, semble-t-il?
En fait, voilà, les AMAP, ce sont des structures qui sont en partenariat avec un producteur. Et ce producteur a une exploitation à taille humaine. Donc, effectivement, c'est pas du tout de l'intensif, c'est pas du tout monoculture. Hein. Il y a de la diversité, voilà.
Donc, c'est défense de, à la fois de la biodiversité et du biologique dans la culture.
Alors, du biologique, oui et non, pas forcément, je dirais, parce que toutes les AMAP ne sont pas forcément, biologiques. Voilà. La majorité le sont et lorsqu'elles ne le sont pas, on incite éventuellement ou on demande aux producteurs de se convertir en bio, mais c'est pas la règle. De toute façon, toutes les AMAP sont en partenariat avec Raisonner, de toute façon.
Donc, vous mettez en association un producteur et les consommateurs par une charte.
Oui.
Le producteur s'engage à quoi et le consommateur s'engage à quoi?
Alors, le producteur s'engage à fournir des paniers toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ça, c'est décidé entre le producteur et les consommateurs. Et voilà, il fournit ses propres produits.
Qu'est-ce qu'il y a dans le panier?
Eh bien, ça dépend de sa
production. Des légumes et des fruits, par exemple.
Alors, voilà,
en grande majorité.
Alors, voilà, les AMAP, normalement, ça a débuté avec un maraîcher. Mais nous, dans notre AMAP, on est en partenariat aussi avec des producteurs de fromage, par exemple, avec des producteurs d'huile, de miel. On a aussi de la viande. Ça peut être vraiment très diversifié. Ça va jusqu'aux huiles essentielles, par exemple. Ça peut être très, 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 très varié, en fait.
Alors, il y a un contrat qui est signé à la fois par le producteur et le consommateur.
C'est ça. Oui, oui. Et ça engage donc le producteur à fournir toutes les semaines ou tous les 15 jours ses produits et le consommateur à s'engager sur toute une saison. Donc il paye à l'avance une partie de la production que le producteur va lui fournir de façon hebdomadaire. Par exemple.
On va se mettre à la place du consommateur. Le consommateur, est-ce qu'il peut choisir le légume qu'il a envie de manger? Est-ce qu'il va dire au producteur, voilà, je voudrais manger des pommes de terre, des poireaux?
Alors oui, non. Voilà. On ne choisit pas ce qu'on a dans nos paniers. Mais par exemple, en début de saison ou la saison précédente, par exemple, on a des réunions régulièrement avec nos producteurs. On va sur les exploitations aussi. Donc on peut lui dire, écoute, moi... pour l'instant, tu n'as pas beaucoup de variétés de tomates. Est-ce que ça ne te dirait pas de diversifier tes plants de tomates? Ou alors, est-ce que tu pourrais pas nous mettre, essayer de faire pousser des légumes oubliés, enfin, voilà, ou anciens, etc., ou d'autres variétés de ceci ou de cela? Donc, il y a une discussion qui se crée, en fait, avec les... On n'est pas consommateurs. Et les AMAP insistent bien sur le terme consommateur. C'est que non seulement donc il y a toute une dynamique dans les AMAP et on est acteur aussi par la défense de cette agriculture paysanne, mais en plus on est vraiment une association et on participe à la vie de l'association.
Où est-il votre producteur? Vous n'en avez qu'un?
Alors, un seul maraîcher.
Un seul maraîcher.
Il est sur Saint-Isidore.
Près de Nice.
Voilà. Donc l'intérêt, c'est aussi de pas avoir des producteurs qui font 100 km. Hein. C'est du bio, mais si c'est pas local, ça n'a pas de sens non plus. Hein. Une AMAP, c'est bio, local, voilà.
Et comment arrivez-vous à fédérer les clients? Comment vous les trouvez?
Ils viennent tout seuls. On a 150 personnes sur liste d'attente. Donc
du quartier?
Alors pas forcément. Et alors là, tout le problème est de pas non plus dire aux gens, ok, vous rentrez dans la map et eux font 40 km aussi, donc ça a aucun sens non plus. Donc de les dispatcher après sur d'autres AMAP. Mais généralement, oui, on se regroupe par quartier ou par ville, commune, etc. Voilà.
Et vu le succès de la map, vous n'allez pas demander à un autre producteur de vous rejoindre?
Non. L'intérêt n'est pas d'avoir 100 consommateurs dans une AMAP, hein, autant qu'ils créent eux-mêmes leur propre AMAP. Après, à côté, un producteur peut être sur plusieurs AMAP, donc c'est le cas d'une autre, mais Parfois, les producteurs n'ont pas assez de production non plus pour fournir...
Justement, s'il n'y a pas assez de production, pour une raison ou pour une autre, qu'est-ce qui se passe?
Alors, dans notre cas, par exemple, la production s'arrête en décembre-janvier, et s'arrête aussi en août, parce que les producteurs replantent. Donc, on s'arrête avec eux, en fait, et les gens repartent au marché, etc. On vit vraiment... au rythme des saisons, au rythme des plantations. Voilà.
Le producteur, lui, il peut vendre ailleurs, mais le problème, c'est qu'il n'est pas assuré de la vente.
Voilà. Alors, c'est ça. L'intérêt de la MAP pour le producteur, c'est qu'il sait que sur 6 mois ou 4 mois, sur la saison, il va avoir tant de clients, en fait, et il va avoir tel revenu, ce qui lui permet d'être crédible face à des banquiers s'il veut faire un emprunt pour... du matériel ou un salarié, etc., etc., et voir à long terme sur les plantations, etc. Voilà.
Alors vous êtes pour le maintien d'une agriculture paysanne. Le problème, c'est que effectivement, toute l'agriculture disparaît en ce moment dans les Alpes-Maritimes. Mmh. Vous pensez que c'est un bon moyen pour la maintenir?
C'est un moyen, oui, oui. Y a pas mal de jeunes producteurs aussi qui voudraient se mettre en production et qui ne trouvent pas de terre. Donc il y a un gros problème au niveau du foncier. Les AMAP sont un moyen d'inciter en fait à l'installation en fait. Hein. Mercredi même, cette semaine, on a eu une réunion au niveau de l'antenne locale de l'Alliance Provence, donc qui est le réseau qui fédère le réseau régional des AMAP. Et on a créé en fait des AMAP virtuelles. Avec parfois un producteur ou parfois 100 producteurs. Et donc, il y a un potentiel économique réel. Et ça va servir en fait à ouvrir un peu les yeux aux élus locaux en leur disant, bon, regardez, on a 6 AMAP ou 10 AMAP qui se sont créés.
Il y a un
virtuel,
besoin.
En fait, il y a un besoin. Mmh. Ça peut être chiffré. Il y a vraiment une économie derrière et ça peut maintenir des terres agricoles.
Mais à propos de chiffres, un qui se passe de commentaires, il y avait 100 000 exploitations dans les Alpes-Maritimes en 1970. Il y en a 643 aujourd'hui.
Oui, et ces exploitations ne sont pas toutes des exploitations maraîchères.
Bien
il y a beaucoup d'horticulture, etc., etc.
Alors, il y a d'autres agriculteurs bio qui ne font pas partie d'une AMAP. Et qui livrent des paniers variés aussi, mais eux, ils sont plutôt en dehors des villes.
Ça existe. Ou alors, je sais aussi que, par exemple, sur notre site, hein, Valrose, il y a aussi une personne qui livre des paniers, qui n'est pas dans le réseau AMAP, qui n'est pas dans le réseau d'Alliance Provence. Et c'est un autre moyen, c'est un autre réseau. Et si ça participe toujours à garder des terres agricoles en production, c'est autant de choses positives.
Voilà. J'ai su que vous aimiez la moto, ça a un rapport avec, avec votre engagement?
Pas du tout.
Ça n'en a aucun. Merci Anna Messner. Yann Bricou, vous ne vendez rien, mais vous prenez soin.
Tout à fait.
C'est
oui.
Ça. Ouais. Vous êtes le grand Manitou du parc Princesse Antoinette. Pour ceux qui ne connaissent pas le parc Princesse Antoinette, qui ne sont pas de Monaco, vous pouvez nous le décrire un petit peu?
Oui, en fait c'est une ancienne oliveraie donc, qui est située en haut de la principauté de Monaco, à côté du jardin exotique, que tout le monde connaît. Donc on a approximativement 200 oliviers, presque 200 caillotiers, j'y tiens. Malheureusement, il y a eu des travaux qui ont été faits récemment et on nous a mis une quinzaine d'oliviers espagnols. Voilà. C'est
vous
pas du racisme. C'est pas du racisme.
Ils sont pas bons les oliviers espagnols.
Non, mais il faut garder nos variétés locales, quoi. C'est la base.
Hormis les oliviers, il y a d'autres essences qui sont plantées dans le.
Oui, après il y a des essences méditerranéennes, il y a de l'arbousier, il y a des lentisques, il y a des myrtes, il y a des caroubiers. Bon, et après il y a des végétaux d'ornement, quoi.
Combien vous avez d'oliviers dans le parc?
Environ 200.
200.
Un peu moins. Alors, moi j'ai dit 200 parce que j'aime bien arrondir les chiffres.
Et quelles plantes?
Pardon?
Quelles plantes dans le.
Au niveau des arbres d'ornement?
Oui, ou des plantes?
On a un peu de tout. Hein. Ça part, on a un petit carré d'herbes aromatiques, donc où on retrouve de la menthe, de la mélisse, de la marjolaine, de l'origan. Puis après, vous avez des plantes méditerranéennes. Et après, vous en avez qui le sont un peu moins. Des polygalas, des métrosideros, des abélias, des landinas, il y a un peu de tout, quoi.
Etc., etc.
Bon, là, on est un peu comme tous les autres, quoi.
Quelles sont les maladies et les problèmes que vous avez à traiter?
Des maladies, écoutez-moi, donc ça fait maintenant... je viens du jardin exotique de Monaco, Donc ça fait maintenant 6 ans que je suis en place au parc Princesse Antoinette. Donc on a mis en place une nouvelle manière de travailler qui consiste progressivement, on a arrêté tout ce qui est produits chimiques. Et ben c'est ce que je disais tout à l'heure en discutant à d'autres personnes. Des problèmes, on en a pas beaucoup, quoi. On a comme beaucoup des jardins, on a quelques champignons, on a quelques parasites, mais on a des seuils tout à fait acceptables.
Comment vous faites pour désherber, par exemple?
Ben pour désherber la main de l'homme. Donc il y a 9 personnes qui travaillent sur 13 000 m². Donc ça nous permet, c'est vrai, d'être présents. On a la chance d'être assez nombreux. Et donc, de manière mécanique, hein, on est dans les massifs avec des petites binettes à rosier, on fait de l'herbe. Et ensuite, on utilise aussi des désherbeurs thermiques pour tout ce qui est voilà, et ça marche très très bien.
Et pour lutter contre les maladies phytosanitaires, comment vous faites?
Maladies phytosanitaires, ben alors quand on en a, si on peut la tolérer, on fait pas grand chose. Puis quand on a des attaques de parasites que l'on estime un peu trop importantes, on pratique des lavages à l'eau tout simplement. Mm-hmm. Quoi. Voilà.
Avec savon de Marseille?
Non, pas de savon de Marseille. Et puis là, maintenant, on a essayé quelque chose. Alors c'est un peu contraignant, mais c'est le compresseur. Donc,
vous pouvez nous expliquer?
Oui, ben, en fait, c'est un gros compresseur qui fait 300 litres, donc qui projette de l'air comprimé. Où on règle donc la puissance, donc c'est en kilos, hein. Donc entre 1 kg et 1,5 kg. Et puis on passe derrière les feuilles quand ça permet de décrocher les parasites avec l'action de l'air, quoi. Alors c'est vrai que ça demande du personnel, hein, mais c'est très efficace.
Alors ce qu'il faut savoir pour les gens qui ne connaissent pas le parc Princesse Antoinette, c'est que beaucoup d'enfants viennent jouer au parc.
Tout à fait.
Donc pas de produits chimiques, c'est très bon pour eux.
Oui, c'est très bon pour eux, c'est très bon pour les gens qui y travaillent. Et puis apparemment ça plaît aux parents qui amènent les enfants, quoi. Il y a absolument aucun produit chimique, quoi. Il n'y a pas de désherbant, il n'y a pas d'engrais chimique, il n'y a pas de produits phytosanitaires. On désinfecte les bacs à sable avec des produits biologiques. Voilà, c'est vraiment je veux pas dire bio parce qu'on n'a pas de label bio, quoi. Mais on travaille de manière responsable.
Alors justement, vous essayez de sensibiliser les enfants au jardinage raisonné, vous leur faites des petits cours.
Voilà.
Sympathique.
Oui, on travaille donc depuis maintenant 3 ans, on mène des activités pédagogiques. Alors le parc Princesse Antoinette, pour ceux qui ne connaissent pas, on a la chance d'être entouré par une crèche et par 2 écoles, une école primaire et puis une école secondaire. Donc on mène des activités pédagogiques avec plusieurs tranches d'âge. Donc ça commence à 2 ans et ça va jusqu'à 13 ans. Donc c'est relativement vaste. Donc après, la manière d'aborder les sujets, forcément, n'est pas la même en fonction des tranches d'âge. Et donc à l'heure actuelle, on mène effectivement une activité où on essaye de responsabiliser les enfants. Donc ça marche très bien avec les classes de 7e et de 8e. Donc on leur
explique, fait des ateliers.
Voilà, on fait des ateliers et on leur explique notre manière de voir les choses au niveau du jardin et notre manière de travailler.
Alors on va aller voir les ateliers. Ouais. Vous avez un atelier engrais, par exemple.
Voilà, un atelier engrais. Ben, on leur explique que jusqu'à il y a 6 ans, on utilisait des engrais chimiques. On leur explique d'où viennent les engrais chimiques. Et on leur explique que les engrais chimiques, c'est fortement dosé, que effectivement ça nourrit la plante, mais ça,
oui,
ça ne nourrit pas le sol. Et que le problème des engrais chimiques, c'est entre autres les nappes phréatiques. Donc on leur dit que les engrais chimiques, ok, on a fait comme ça jusqu'à présent, mais que maintenant on avait déjà d'autres solutions, qu'il faut sortir de ce système économique, parce qu'en fait c'est qu'un système économique, et on met en place donc ces autres solutions qui sont des engrais organiques. Donc ça part, c'est un atelier odeur en fait, hein. C'est le fumier, parce qu'on a la chance d'avoir des chèvres et des moutons et des lapins.
Oui.
Voilà, donc on leur fait mettre les mains dedans, ils sentent. Après on a la chance de travailler avec les cantines scolaires, on fait notre compost. Donc pareil, ils mettent les mains dedans.
Atelier de compostage.
Atelier de compostage.
Lombricompost.
Non, pas encore.
Ça va venir.
Ça va venir. Donc compostage et après bon atelier odeur, sang séché, corne broyée, voilà.
Et récupération d'eau de pluie.
Oui, récupération de pluie, d'eau de pluie. Bon, ça pareil, c'est ludique, ça plaît beaucoup aux enfants, quoi.
Et vous la reprenez aussi à bien penser un jardin avec des plantes indigènes.
Oui, tout à fait. La base donc d'un jardin, on va dire. Où on ne veut pas faire appel à des produits chimiques, il faut qu'ils soient bien pensés. Donc, bien pensés, ça veut dire une diversité au niveau des végétaux. Et ce que vous disiez tout à l'heure, il faut que les végétaux soient adaptés le plus possible au sol et au climat, quoi.
Ils sont réceptifs, les enfants, ou ça leur passe complètement à côté?
Ils sont très réceptifs. Alors, le seul échec que l'on a eu, c'est une classe en fin d'après-midi et un jeudi soir. Apparemment, la semaine avait été longue, ça a été un peu dur. Voilà. Et moi, j'avais plus de voix. Mais sinon, ils sont très réceptifs. Et au contraire, il y a tout un travail qui est fait en amont au niveau des instituteurs. Donc, on leur donne des documents, ils travaillent déjà dessus en classe. Et ensuite, après, donc, il y a la partie terrain où forcément c'est plus ludique. Et tout ce qui est ludique, forcément, ça plaît aux enfants.
Qu'est-ce qu'ils vous posent comme question généralement? Qu'est-ce qu'ils aiment savoir?
Étonnamment, y en a beaucoup déjà qui ont la chance d'avoir des grands-parents ou des parents qui ont des jardins ou des terrasses. Donc, étonnamment, ils nous posent des questions par rapport à ce qu'eux, ils pourraient faire chez eux. Donc c'est moi j'ai été étonné quoi. Et est-ce que ça je pourrais le faire chez moi? Et est-ce que ça alors il y a aussi une question d'ordre économique. Alors à 10 ans, est-ce que ça coûte cher? Parce que par exemple, on les a sensibilisés sur il y a plusieurs manières d'arroser. Donc à l'heure actuelle, le goutte à goutte et la sonde c'est des techniques qui sont économiques au niveau de l'eau. Donc bien évidemment, on les sensibilise sur le fait de ne pas gaspiller l'eau. Donc, quand on leur présente des systèmes d'arrosage automatique, est-ce que ça coûte cher?
Est-ce que ça coûte cher? Voilà. Ouais. D'où la semaine du jardinier responsable qui vient de se terminer.
Non, on a été victime de notre succès.
Ah. Et la semaine. Il y a des prolongations.
Est prolongée d'une semaine, en fait.
D'accord, voilà. C'est donc la quinzaine des jardiniers responsables.
Tout à fait, ouais.
Qu'est-ce que vous faites dans cette quinzaine?
Donc, on a un petit tour autour d'un arbre qui a plus de 1000 ans, donc qui est l'emblème du parc Princesse Antoinette. Et donc, il y a différents ateliers. Donc, il y a un atelier compostage, il y a un atelier plantes adaptées à nos sols et à notre climat. Après, il y a un atelier diversité des végétaux dans un jardin. Donc là, on leur présente des végétaux, on leur montre qu'il y a plusieurs types de fleurs, il y a plusieurs tailles de fleurs. Et que forcément, ça va attirer divers insectes. Donc, on essaye de les sensibiliser là-dessus. Après, il y a un petit atelier sur le paillage, les vertus du paillage. Donc, ça aussi, ça plaît beaucoup. On essaie de savoir d'où vient la paille, à quoi elle va nous servir. Donc, éviter l'évaporation, protéger la plante du froid, des mauvaises herbes. Mmh. Ensuite, il y a un petit atelier sur l'arrosage automatique. Là, pareil, c'est très ludique. Ensuite, donc l'atelier des odeurs, la fertilisation. Donc ça, je crois que c'est ce qui plaît le plus. Et le dernier atelier, le désherbage. Donc mécanique et thermique.
Merci Yann Bricou.
Je vous en prie.
Dans un instant, Thomas Técoccinelle et Jean Musse.